C'est intéressant maintenant. Y en a combien qui se sont réunis dans un groupe de maison pour que j'ai une petite idée de ceux qui ont pu. Voilà, donc il y a un bon petit nombre de personnes. Et c'est intéressant parce que je sais que vous avez déjà un peu réfléchi sur ces choses, vous avez déjà eu des questions, des questionnements, des discussions, vous avez déjà lu le texte. Et ça facilite ma tâche, dans le sens où ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau pour vous. Donc, oui, je voudrais vraiment pouvoir expliciter ce que vous avez déjà vu. Et ce passage, des fois, on dit Romains 13, « Ah oui, il faut payer ses impôts ». En fait, ce passage, il a eu une influence capitale dans toute l'histoire de l'humanité depuis que les derniers 2000 ans, parce qu'il nous donne des pistes ou des ordres, des commandements, des attitudes à avoir envers les autorités. Et notre nature pécheresse se rebelle contre toute autorité. Nous avons cette fâcheuse tendance à ne rien respecter et au contraire à cultiver une forme de dérision vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du gouvernement. Et pourtant, quand on y pense bien, à chaque moment de notre vie ici-bas, nous avons des lois auxquelles nous devons nous conformer. Ça a commencé par, pour vous ce matin, en cherchant un endroit pour se garer. Vous savez que si vous ne garez pas où c'est permis, vous allez avoir des ennuis, parce qu'il y a la loi qui peut faire qu'on va vous enlever votre voiture et puis vous mettre coller une amende. Vous avez peut-être acheté quelques croissants ce matin ou du pain, ou vous avez peut-être déjà fait des courses. Là aussi, vous avez dû payer ce que vous avez pris. Et ainsi de suite. Et en fait, on s'en aperçoit pas parce qu'on est tellement habitué que pour nous, c'est normal de payer le pain qu'on achète. Vous êtes sorti en vous disant j'espère que vous n'alliez pas être attaqué par des bandits qui allaient vous dérober vos affaires en plein jour. Et donc on voit quand on vit dans une société, en tant que chrétien, on n'est pas citoyen du monde dans le sens où notre première citoyenneté elle est dans les cieux. On a vu ça dans l'étude aux Hébreux. Mais en même temps, nous vivons dans ce monde et nous devons savoir comment agir dans le monde. Et c'est quelque chose qui... Je crois que ce passage, il est monumental. Des fois, on le prend comme quelque chose d'anecdotique. Ah oui, d'accord, oui, il faut se soumettre aux autorités, payer les impôts. Alors c'est un bon résumé, mais il faut réfléchir à ce passage et se dire qu'il a influencé l'histoire du monde. La France, je me prends des fois à rêver. S'il n'y avait pas eu la révocation de l'édit de Nantes qui a chassé tous les protestants hors de France, avec des persécutions, le monde ne serait pas comme il est aujourd'hui. Les gens qui ont fui les gouvernements où ils étaient persécutés, ils ont pris refuge en Suisse, aux Pays-Bas, en Angleterre, ils sont allés aux États-Unis. Il y a eu des civilisations qui ont prospéré parce que les gens se soucier de ce que la Bible avait à dire vis-à-vis de nos relations avec les autorités. Donc, c'est vrai que aborder ce sujet, on va le faire, c'est intimidant parce que je me dis c'est monumental. On va le faire peut-être en une fois ou deux, plutôt deux fois qu'une. Mais on peut survoler ça et se dire bon, ça va, c'est ok, on lit ça, ça se lit assez rapidement. Il y a beaucoup de points sur lesquels on est généralement d'accord, mais est-ce que notre vie est vraiment en accord avec ce passage? Ça, c'est une autre question. Et la lettre aux Romains, on vous le rappelle, c'est un traité de théologie, mais aussi un traité de vie pratique. Et Paul, il sait que nos croyances vont déterminer nos comportements. On a vu que nous avons vu au dernier chapitre 12 combien nous devions être consacrés à Dieu. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc notre relation, il a parlé de notre relation avec Dieu, il a parlé aussi de notre relation avec les autres croyants. Nous avons à avoir une appréciation saine et humble de notre personne, de notre importance. Nous devons coopérer au bien de tous avec les dons que nous avons reçus de Dieu. Et puis, nous devons montrer de l'amour. Et puis, il nous dit aussi quelle doit être notre relation avec les non-croyants. Ça, c'est après avoir expliqué toutes les fondations, les fondements plutôt, de la foi chrétienne, le fait que nous sommes des pécheurs, que nous méritons la punition, mais que Dieu a trouvé une façon. C'est pas comme s'il s'est gratté la tête longtemps pour trouver cette façon, mais il a pourvu une façon d'être en relation d'acceptation et d'amour avec Dieu par le sacrifice de son Fils. Et tout ça, c'est spirituel, mais je vous invite à ne pas être schizophrène. C'est-à-dire vivre des choses spirituelles le dimanche et peut-être dans le groupe de maison, et puis le reste de la semaine, partir et faire n'importe quoi, vivre comme tout le reste des hommes. Non, nous sommes, notre foi, elle doit vraiment influencer toute notre vie. Elle doit corriger, elle doit nous donner des vérités. Et souvent, on a l'impression, et je parle le premier, que j'ai tout compris, mais que les autres n'ont pas compris. Et la Bible, elle commence à faire son effet lorsque je me dis peut-être que j'ai des choses que j'apprécie mal, ou que j'ai des croyances basées sur une tradition familiale, sur une expérience d'église, sur la façon dont le monde autour de moi vit, et ne pas vraiment remettre en question et me dire peut-être que j'ai tort sur plein de points, peut-être que, et c'est là que lorsque vous êtes ouvert à avoir la Bible qui vous corrige, parce que la Bible est la vérité de Dieu, ta parole est vérité, sur elle on peut fonder sa vie. Et le tout, c'est pas seulement de connaître, ça c'était les premiers 11 chapitres, c'est de mettre en pratique, d'avoir une harmonie dans votre vie entre ce que vous croyez, comment vous vivez. Sinon, il y a ce qu'on appelle en psychologie moderne une dissonance cognitive. C'est-à-dire, et je vois certains qui ont fait de la psycho, qui savent ce que c'est, on sait ce qu'il faut faire, mais on fait autre chose. Et quelque part, ça crée un mal-être, un malaise, parce que on sait qu'on ne vit pas comme on devrait vivre. Et Paul, justement, après avoir dit tout ce qu'il nous fallait croire, il nous montre comment ça doit se traduire dans notre vie de tous les jours. Et oui, nos croyances, encore une fois, déterminent notre conduite. Au chapitre 12, on a vu que le chrétien ne devait pas chercher à se venger personnellement. Et là, c'est presque une façon de passer à autre chose, c'est de dire, mais c'est pas à vous de vous venger, Dieu va venger, et il y a des autorités qui sont là pour vous protéger, qui sont là pour exercer certaines choses, et c'est pour ça que Dieu les a instituées. Dieu, essentiellement, a institué trois choses. Le mariage et la famille. On voit ça dans la Genèse. C'est déjà dans les tout débuts de la Bible, on voit comment Dieu, Genèse 2, 18 à 25, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » C'est pour ça que tous, on redoute un peu le week-end, parce qu'on va être seul, pour ceux qui sont mariés. Non, je plaisante. À moitié. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir à l'homme, vous savez l'histoire, il les nomme. Et puis, l'homme donna des noms, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » C'est un jeu de mots en hébreu, « Isha » et « Ish ». En français, ça, on ne voit pas la raison pourquoi d'homme on va passer à femme. Mais en hébreu, c'était Ish et Isha. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme n'étaient tous les deux nus, mais ils n'avaient pas honte. Et on sait que c'est donc l'institution du mariage qui conduit à la famille. Ça, c'est la première institution. Ensuite, dans la Genèse, au chapitre 9, on voit comment Dieu institue le gouvernement, les autorités civiles. Là, on voit plutôt le 9, 1 à 17, c'est l'établissement de... C'est là qu'il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, donc la famille arrive. Mais... Il dit au verset 6, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image, etc. » Et là, on voit qu'il institue en fait les autorités civiles pour exercer un contrôle de ce qui se passe, notamment en vue de la vie et de la mort. Et puis dans le livre des Actes, acte 2, on voit l'institution de l'Église. Donc, fondamentalement, trois choses qui ont été instituées par Dieu. Ça veut dire que c'est pas des expérimentations sociologiques qui ont pris place parce qu'il y avait des machos à une époque ou pas. C'est Dieu qui a institué ces choses. La famille, l'État, le gouvernement et l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on mélange les trois, lorsque l'État prend la place de la famille, c'est ce qui s'est passé à certaines époques où on envoyait les enfants, on les envoyait être éduqués par l'État. Ou lorsque l'État combat la famille, on ne peut pas s'étonner qu'il en résulte des problèmes sérieux. Lorsque l'État essaye de redéfinir le couple, on peut s'attendre à des problèmes sérieux. Et ça, c'est des problèmes qui n'ont pas disparu. La Bible est tellement pertinente, si seulement on la lisait, et qu'en tant que chrétien, on essaye de l'appliquer. Et donc, là, on va voir dans ce passage, on va voir qu'en fait, un bon chrétien va être un bon citoyen. Bon chrétien, bon citoyen. On ne doit pas être bobo, des bourgeois bohèmes. On ne doit pas être des bons chics, bons genres, BCBG. On doit être des BC, bon chrétien, bon citoyen. Et il va nous donner un peu des précisions là-dessus. On va finalement entamer la lecture de ce que vous avez déjà vu beaucoup. Lisons le chapitre 13, versets 1 à 7, c'est page 1281 dans la Bible à la colombe. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Et on y arrive, c'est aussi pour cela que vous payez des impôts. Car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouverne. Paul nous donne le principe pour lequel ça doit être notre attitude envers les autorités, une attitude de soumission. Dieu a institué des éléments, on a parlé de la famille, on a parlé de l'Église, on a parlé du gouvernement, et il y a un principe de base qui se voit dans notre corps humain, c'est que pour que les choses fonctionnent harmonieusement, il faut qu'il y ait une structure hiérarchique. La structure hiérarchique, encore une fois, on en a parlé quand on a parlé du mariage, c'est pas une question de dire que quelqu'un est inférieur intrinsèquement à une autre personne. J'aime bien prendre l'exemple de l'armée, où pour que l'armée fonctionne, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Si tout le monde est le chef, ça ne marche pas. Et encore une fois, le simple soldat peut avoir une plus grande valeur que le colonel, en valeur au vu de l'histoire, ou au vu des capacités, etc. À quelqu'un comme Guillaume Apollinaire, un grand poète, il était simple soldat, il se soumettait à un sergent-chef, peut-être qui était fermier et qui se retrouvait là, qui était en position hiérarchique supérieure. Et c'est très important de respecter cette structure. Dans la famille, c'est pareil. C'est pas populaire aujourd'hui. Le christianisme a fait plus pour la femme que n'importe quel autre système politique ou religieux. La femme était considérée comme du cheptel. On pouvait avoir plusieurs femmes, on pouvait avoir des maîtresses, on pouvait avoir des femmes avec qui on avait des relations intellectuelles, on parlait de littérature, on allait avoir des relations sexuelles avec une autre femme, et on avait une femme qui était la mère de famille dans l'Antiquité. Le christianisme a rendu toute la dignité de la femme. Mais en même temps, dans le mariage, seulement dans le mariage, la femme doit être soumise à son mari. Elle doit être, le mot en grec c'est « upotasso ». Upo, ça veut dire « en dessous », « placé en dessous ». Ça ne veut pas dire que la femme est inférieure, qu'elle n'est pas très intelligente, qu'elle n'est pas capable de faire des choses formidables, mais une des grandes causes, à mon avis, et c'est ce que dit la Bible, s'il y a une détérioration dans la société, si les gens ne s'y retrouvent plus, c'est parce qu'on a rejeté ce principe. Alors ça peut être choquant. Je réalise, j'ai dû prêcher ce passage, pas celui-là, mais celui qui parle de la soumission de la femme à son époux, et c'est seulement dans le mariage, dans le cadre du mariage. Ne vous laissez pas impressionner par quelqu'un qui dirait, vous dire, je suis un homme, tu es une femme, tu dois te soumettre à moi. Non, ça c'est seulement. On en a parlé, la soumission de l'homme, de la femme à l'homme, elle est d'autant plus facile que l'homme est soumis à Dieu, ce qui est aussi un commandement pour l'homme. Et c'est tout un autre, on n'a pas le temps d'approfondir cela, je vous renvoie aux études qu'on a faites sur ces sujets. Si vous voulez des références, je pourrais vous donner ça. Mais le fait d'être placé hiérarchiquement sous l'ordre de quelqu'un, c'est essentiel au fonctionnement de l'ensemble. Lorsque nos membres, et Paul utilise souvent cette illustration du corps physique de l'homme, parce qu'elle est, elle est très parlante, très, très évidente, très commune, on peut tous regarder notre corps, on sait que si notre cerveau ne contrôle plus le reste des membres de notre corps, on devient spastique, on a des gestes incontrôlés, on est malade. Je suis malade. Complètement malade. Si le cerveau, s'il n'y a plus cette harmonie, et encore une fois, Paul écrit bien que ce n'est pas parce qu'il y a le cerveau que l'œil doit se sentir inférieur au cerveau. Que je prends souvent l'exemple du petit doigt de pied doit penser qu'il est inutile. Si vous êtes frappé un petit doigt de pied en jouant au volley sur une plage, vous savez que pendant plusieurs jours, tout votre corps a souffert. C'est l'unité du corps qui est nécessaire à son bon fonctionnement. Et donc, lorsqu'il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, aux autorités qui nous gouvernent, c'est le même mot. C'est une subordination d'arrangement, pas de valeur. Et le grand principe, c'est que le gouvernement est établi par décret divin. C'est Dieu qui décide, qui permet, qui encourage, qui fait que, aujourd'hui on nous dit qu'en Russie, le président Poutine va être réélu pour encore 6 ans. S'il est élu, c'est que Dieu le permet, que Dieu, dans sa sagesse, alors ça peut être, des fois on le voit dans l'Ancien Testament, des fois il y avait des rois qui étaient nommés pour corriger, pour reprendre la nation juive, par exemple. D'un seul coup, ils étaient dominés par les Romains, à un autre moment, c'était par les Babyloniens. Et Dieu, si ça se passe, c'est que Dieu l'a permis, ou Dieu l'a voulu, ou Dieu a un plan pour faire que. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été établis, institués par lui. Donc, La conclusion, c'est que ceux qui résistent au gouvernement, ça revient à se rebeller contre Dieu. Ça, c'est le verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et, de plus, ils vont en pâtir, ils vont en souffrir. Verset 2, qui continue, « Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » En effet, alors, ça c'est... Voilà, si on résiste au gouvernement, non seulement on résiste à Dieu, mais on va être puni. Et encore une fois, dans tous les domaines de notre vie, nous avons des obligations vis-à-vis des autorités. Quand vous conduisez sur la route, alors c'est ce qu'on ne vous dit pas quand on vous présente en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus de pubs de voitures à la télé. Et les voitures ne sont pas chères parce qu'on vous donne le montant qu'il y a à rembourser chaque mois. Donc c'est que 300 euros par mois. Il faut déjà les avoir. Et généralement, ces voitures sont rouges. Vous remarquerez, les voitures rouges, ça attire plus l'œil. C'est cette idée que, une fois que vous avez cette voiture rouge, dernier cri, la vie va être un long fleuve tranquille, rapide. Vous allez passer dans des endroits merveilleux. On ne voit jamais d'embouteillage dans les pubs sur les voitures. Vous avez remarqué ça? C'est toujours une route imaginaire, une route au loin en Norvège ou au Canada, une longue voie, toute facile. C'est... Ils ne veulent pas qu'on réalise, ils veulent nous... Surtout, ils ne parlent pas de limitation de vitesse. Quand vous entendez une voiture de police derrière vous, quel est votre premier réflexe? Le mien, je sais, c'est de regarder la vitesse de ma voiture. Surtout sur la voie rapide à 70, c'est pas très vite si la route est dégagée. Hein. 75. On dit... Puis moi, je dirais au policier qui m'arrêtera, ou si je suis flashé, je dirais qu'en fait, rien que quand la voiture est à l'arrêt, l'aiguille est sur le 5. Donc 75, pour moi, c'est 70. Et on cherche à résister, et on sait que si on n'obéit pas, on va avoir une condamnation, on va être flashé. Et c'est jamais plaisant d'avoir à payer de l'argent pour quelque chose qui a pris une seconde d'inattention. Nancy trouve que je vais... trop vite, généralement, que je conduis trop agressivement, et je crois qu'elle a raison. C'est pour ça que le jour où on a reçu un PV, un flash, elle m'a dit, je te l'avais dit, tu vas toujours trop vite, c'est bien fait pour toi, tu as que ce que tu mérites. Puis en regardant le PV de plus près, on a vu qu'en fait, c'était un endroit où j'étais pas. Et elle a réalisé que c'était elle qui conduisait. Et c'est vrai que c'est un piège. C'est à l'entrée de la voie rapide quand on prend la pénétrante pour aller vers l'Ariane. Là, il y a un tournant là où il faut vraiment être à 30 à l'heure alors qu'il est facile d'aller à 50 à l'heure. Elle n'allait pas très vite. Mais il y a la punition si on ne respecte pas l'autorité. Et puis, la bonne chose, c'est que on n'a pas à craindre les magistrats. Donc, les magistrats, c'est les forces de police, c'est les juges, et c'est tous ceux qui transmettent l'autorité de l'État vers nous, pauvres citoyens. On n'a pas à les craindre quand on fait le bien, mais seulement quand on fait le mal. Au contraire, là, c'est vrai que quand on est sur la voie rapide, qu'il y a une voiture qui nous dépasse à 100 à l'heure, et puis qu'on est là juste à 70, et qu'on voit une voiture de police derrière, on est bien content. Bonjour. Oui, ça va, bonne journée. On est en paix. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation. Et puis là, donc, il nous explique que le gouvernement donc sert à freiner le mal. Parlant de freiner, c'est à réduire le mal. Imaginez, encore une fois, une société dans laquelle il n'y a aucune force de police, aucune force de l'ordre au niveau de la vie, ça serait un chaos sans nom. Les gens viendraient prendre ce qu'ils veulent sur votre table. S'ils sont plus costauds que vous, ça serait la loi de la jungle, la loi du plus fort. Et le gouvernement donc sert à freiner le mal et il sert à promouvoir le bien. Parce qu'on sait que si on respecte les autorités, on sera dans, on aura l'approbation de l'autorité. Ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière, j'explique dans notre groupe. Je prenais le. On est allé voir notre troisième petit-fils, enfin notre troisième petit enfant à Paris, Noé, et on a pris l'avion pour y aller. Et à chaque fois que je dois passer par la sécurité, je remercie Bin Laden, qui nous fait passer une demi-heure de plus, qui a fait que par ses attentats, on doit se plier à cette routine. Je ne vais pas le faire devant vous, mais on enlève ses chaussures, sa ceinture, ses montres, on cherche, et puis il faut sortir l'ordinateur, etc. À force d'habitude, je fais ça rapidement, j'ai les sacs, les trucs. Et le gars m'a dit, ah ben alors vous, c'est formidable, hein, vous repassez quand vous voulez. C'est la première fois qu'on me fait des compliments pour passer la sécurité. Par contre, je ne veux pas encore, oh, je vais le dire, la provenancière, elle avait amené des bougies. Et en fait, il faut éviter les savonnettes et les bougies parce que ça fait des masses opaques à l'écran et ils doivent vérifier ce que c'est. Ça pourrait être de l'explosif, du plastique. Donc, elle a été fouillée pendant 5-10 minutes. Et le gain de temps que j'avais réalisé en étant un bon citoyen, je l'ai perdu. Mais l'idée, c'est que oui, si on est en règle, d'abord, on va avoir cette paix. Fais le bien et tu as son approbation. Et puis, il nous dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Ça, c'est assez incroyable. Est-ce que la dernière fois que vous avez vu un contractuel... C'était ces gens qui mènent des amendes. Maintenant, ils sont remplacés par des sociétés privées et ils ont délégation de l'autorité. Donc, eux aussi sont des serviteurs de Dieu. Est-ce que vous avez déjà dit bonjour ? Moi aussi, pour moi qui suis pasteur, je pourrais dire moi aussi, je suis serviteur de Dieu. Ça serait intéressant de voir leur réaction. Quoi ? Ah, pas, vous foutez de ma... Ma tronche ou quoi ? Et pourtant, encore une fois, parce que toute autorité vient de Dieu, elle est déléguée, elle est transmise à une personne, et la personne qui a la moindre autorité administrative ou légale est en quelque sorte, elle remplit un poste que Dieu a voulu. Et le mot qui est utilisé, c'est pas le mot de diacre, c'est le mot de liturgos, qui est celui qu'on désigne pour la liturgie. Donc, ils participent sans le savoir. Ils sont totalement inconscients de ça. Mais en même temps, vous vous souvenez qu'il y a Paul qui a été en prise avec les autorités, qui a, qui a souffert aux mains des autorités, qui a dû passer devant des tribunaux, etc. Mais il nous disait dans 1 Timothée 2, vous connaissez aussi ce passage, « Toi donc, 1 Timothée, pas 2 Timothée, 1 Timothée 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1 Timothée 1, 2, 1 et 2, j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, verset 2, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible et tranquille, en toute piété. Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voulez connaître la volonté de Dieu ? Vous cherchez la volonté de Dieu pour ma vie. Commencez par faire la volonté de Dieu qui est explicitement indiquée ici. Priez pour toutes les personnes qui exercent l'autorité. Pour le contractuel, pour le policier, pour le motard, pour le président, pour le gouvernement, pour penser à des gens qui... Pour votre agent collecteur d'impôts, quelle est la dernière fois que vous avez prié pour l'agent des impôts? Prochaine fois que vous le voyez, vous lui dites: sachez que je prie pour vous, si c'est la vérité. Vous pouvez juste prier avant, si vous ne l'avez jamais fait. Et il dit: je prie pour vous et j'apprécie que vous êtes un serviteur au service de Dieu. Pas la tête, non. Et je vous invite à le faire. Je vais essayer de le faire et on en reparle dans quelques semaines, d'accord? De dire: j'apprécie que vous êtes là parce que vous remplissez... Souvent, on a l'impression que les gens se retrouvent dans ces positions parce qu'il y a quelqu'un qui leur a dit: tu devrais passer le concours pour entrer aux douanes ou pour faire ceci. Et j'ai réussi, maintenant je suis douanier. Mais en fait, sans le savoir, il se retourne dans une case qui a été préparée par Dieu. Il faut qu'il y ait des gens pour que la vie soit possible, qu'on puisse échanger, etc. Et les autorités, donc, verset 4, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Les autorités sont investies par Dieu du pouvoir d'infliger un châtiment pour désobéissance. L'idée de porter l'épée, c'était à l'époque, c'était clair que c'était le droit de vie et de mort. L'épée, c'était le sacrifice, plutôt le... La façon dont on prenait la vie à quelqu'un qui était condamné à mort. La croix, c'était seulement pour les moins que rien auxquels Jésus s'est associé en venant mourir pour nous sur la croix. Mais les citoyens, on leur coupait la tête. Paul, qui était un citoyen romain, on nous dit qu'il a eu la tête tranchée. Et... Donc c'est l'autorité en application, en châtiment, en punition. Donc ça va jusqu'à la peine de mort. Il est là pour manifester la colère en punissant celui qui fait le mal. Alors ça serait un peu un grand sujet de dire que la peine de mort est biblique. Elle est biblique. Les hommes pensant qu'il y avait trop d'injustice, et sans doute pour la plupart en voulant faire bien, ont décidé qu'il n'y aurait plus de peine de mort. On a même dit que la peine de mort n'avait aucun pouvoir dissuasif. Et ce à quoi il est facile de répondre: désolé, mais lorsque quelqu'un a été exécuté, cette personne ne commet plus de crime. On voit malheureusement dans les annales judiciaires, dans les informations judiciaires, dans les nouvelles, des gens qui ont été condamnés, qui ont fait de la prison, qui sont ressortis, qui ont fait encore pire, etc. Mais c'est un sujet qui demanderait beaucoup plus de temps. Mais sachez que l'homme, la peine de mort n'est pas contre la volonté de Dieu. C'est ma conviction profonde. Alors c'est vrai que c'est terrible de se mettre en position de décider de la vie et de la mort des gens, et qu'il faut être sûr de son coup. Le plus terrible, c'est lorsqu'on s'aperçoit des erreurs judiciaires, qu'on trouve un coupable. Et donc devant ce risque, je crois que l'homme, et je crois que ça part d'un bon sentiment, on dit on met plus à mort. Et pourtant, lorsqu'on voit celui qui a pris le sang, son sang doit lui être pris. Et on ne va pas évoquer mais vous avez tous à l'idée, les tragédies qui se passent en ce moment, les crimes qu'on recherche, parce que d'un seul coup, on s'aperçoit qu'une personne qui a commis 1, 2, 3, a peut-être commis 5, 10, 20 crimes. Et on dit, mais où est l'État pour nous protéger ? Les gens manifestent dans la rue, les gens se rebellent contre le manque d'efficacité policière et judiciaire. Mais ce sont des vrais sujets. Et il est bon d'avoir des vrais principes basés sur la Bible. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, donc il y a la peur du gendarme d'un côté, mais aussi par motif de conscience, de savoir qu'on fait ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est tellement important aussi. La peur du gendarme, c'est pas une mauvaise chose dans le fait où elle vous force à vous conduire selon d'une façon qui ne fait pas de mal à autrui. Mais c'est beaucoup mieux lorsque c'est la loi à l'intérieur de votre cœur qui vous dit ce qu'il faut faire. Votre conscience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des moments où il y a eu des réveils dans l'histoire, notamment le réveil au Pays de Galles, et il n'y avait plus personne dans les prisons. Les tripots, les boîtes de nuit, les maisons de prostitution, tout ça se fermait comme conséquence inévitable du fait que chacun cherchait à plaire à Dieu. Et souvent, c'est un des problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est qu'on essaye, et notamment aux États-Unis, mais un peu aussi en France, on essaye d'influencer la législation en utilisant des moyens du monde. Alors qu'en fait, l'Évangile, il est là pour transformer chaque personne, chaque cœur. Et contre ça, il n'y a rien, c'est imparable. Si on est tous en harmonie avec la volonté de Dieu, la société, tout ça va fonctionner sans problème. Alors, soyons réalistes, le péché est dans mon cœur, il est dans votre cœur, je crois, pour certains. Et donc, quand on multiplie tous ces péchés, toutes ces personnes, il n'est pas étonnant qu'il y ait des problèmes dans notre... Au cœur de chaque problème, il y a un problème dans le cœur de chacun. Ça, c'est important de s'en rappeler. Et donc, obéir au gouvernement, la meilleure motivation, c'est de le faire par conscience, pas par la peur d'être puni, mais de dire, je sais qu'il faut que je roule à 70, parce que si jamais j'ai un accident, au lieu que la personne se retrouve morte ou en chaise roulante pour le restant de ses jours, elle aura peut-être un petit séjour à l'hôpital et ce sera tout. Si je dois être à l'heure quelque part, je m'efforce de me lever plus tôt, de partir plus tôt. Et je me parle à moi-même. C'est pour ça que dans Sydney, je conduis comme un fou, mais je ralentis quand je vois des radars. Ah ! Non, parce que ça, c'est la peur du gendarme. Il faut le faire par conscience, par conviction. Et puis, verset 6... Payer ses impôts. Alors ça tombe mal parce qu'on va avoir les déclarations qui arrivent déjà. Payer tout ce qu'on doit. Ne pas tricher. Alors c'est drôle parce qu'il est dit que les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. On a l'impression que tout ce que font les autorités, c'est s'assurer qu'on paye des impôts, d'organiser des budgets, de dire voilà. Et tout le monde essaye de garder sa part de beefsteak, les retraités, les cheminots, et on manifeste. Et on... Le problème avec les retraités, c'est qu'ils peuvent faire grève, personne ne... Ça gêne pas les gens. Autant que les cheminots qui font des grèves perlées pendant 3 mois. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe. Donc ça, c'est l'impôt par le service ImpôtGouv. Vous pouvez le faire en ligne maintenant, c'est formidable. Et puis la TVA, toutes les taxes, les frais qui sont attachés. Et souvent, le problème, c'est qu'on dit « Oui, mais je sais que le gouvernement va mal utiliser l'argent que je donne. Le gouvernement est corrompu. Le gouvernement est infiltré par des sectes, par les témoins de Jéhovah ou par les francs-maçons. Ils sont tous là-dedans, c'est secret. » Et on est tous d'accord avec ça. Mais Dieu n'a pas dit « Donnez aux autorités si elles ne sont pas francs-maçonniques. » Ou si elles n'ont pas commis de péché. Non, le principe, c'est, pour, vu notre état, notre vieille nature, si on veut que ça marche au mieux possible, il faut se soumettre à toutes les autorités, et en particulier, parce que c'est une façon très importante, par les impôts. Ces impôts, encore une fois, ils vont aider à notre sécurité, que ce soit parce que ça va permettre de payer une armée, ça va permettre de payer des forces de police. On est content lorsqu'on appelle le 17 de voir des policiers arriver. On est content de se dire que si jamais il y a le chaos, l'armée peut protéger le pays. Mais ça coûte de l'argent, il faut donc participer à l'effort commun et payer tout ce qu'on doit. L'homme étant l'homme, on parlait l'autre soir, il suffit de... À chaque fois que je vois quelqu'un qui monte dans le bus sans payer, je ne peux pas m'empêcher de me dire, si cette personne ne paye pas l'entrée du bus, comment est-ce qu'ils doivent remplir la feuille d'impôt? S'ils peuvent tricher, est-ce qu'ils ne vont pas tricher? Qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est la sagesse populaire française. Qui vole un ticket de bus doit en profiter sur ses impôts. Et je vous invite tous à être irréprochables. Des fois, vous ne pouvez pas rentrer à l'avant parce qu'il y a trop de monde, donc vous rentrez à l'arrière et c'est difficile. Si vous avez trouvé une place, donc si vous laissez votre place, elle va être perdue, donc vous dites « bon, ben, je vais voir ». Je tente cette fois-ci. Votre conscience doit être telle que vous ne vous posez même pas la question. Si vous avez des impôts, vous faites confiance à Dieu, même si les impôts vous paraissent élevés. Vous payez. Alors, bien sûr, s'il y a une erreur, vous pouvez regarder, vous pouvez examiner les choses. S'il y a une erreur, en faire part au service des impôts. Mais n'ayons pas cette attitude qui est prévalente dans le monde de dire « je vais arranger les choses un peu ». Parce que nous avons un témoignage dans le monde. Et là, on n'a pas le temps, mais il y a des passages d'auteurs chrétiens et d'auteurs non chrétiens qui, au premier siècle, voyaient les chrétiens vivre et étaient bouleversés de la façon dont ils vivaient. Parce qu'ils étaient à part, ils ne vivaient pas comme le reste du monde. Ils honoraient, ils payaient la TVA. Alors des fois, c'est le marchand qui vous dit « ça sera combien la réparation ?» du moteur. Si vous payez par chèque, ce sera 300, et si vous payez sans chèque, ce sera 150. Et la tentation est grande de dire, bon, je vais chercher, il y a une machine à cash. Et ça, encore une fois, c'est l'Esprit Saint qui doit agir dans vos cœurs, qui doit vous montrer comment vivre. Mais vous aurez la paix, vous n'aurez pas peur d'un redressement fiscal. Vivez au-dessus de tout soupçon. Payez tout ce qu'on vous demande et faites confiance à Dieu pour pouvoir à ses besoins. Ce qui est intéressant, le fait de ne pas se soumettre aux autorités, ça revient à un manque de foi. C'est Dieu qui a institué les autorités, qui nous demande expressément, il n'y a pas de mais, de conditions, respecter les autorités. Alors, ceci dit, la Bible nous montre aussi qu'il y a un domaine où on doit désobéir, une désobéissance qui est permise et encouragée par la Bible, c'est lorsque le gouvernement nous invite directement à faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Ça, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, c'est là que certains disent, oui, mais si je paie mes impôts, ça va servir aux avortements, par exemple. Est-ce que vous pouvez contrôler où va votre argent? Est-ce qu'on pourrait, on pourrait dire seulement pour la réfection des routes devant chez moi? Non. Donc, même cette idée ne doit pas entrer votre esprit. Vous devez vous payer. Mais si on vous interdit de... C'est ce que les autorités romaines faisaient avec Pierre. Ils leur disaient « Arrêtez de parler de ce Jésus ». Et Pierre a dit, on désobéit, mais on est prêt à assumer les conséquences de cette désobéissance. On ira en prison si tel est le résultat de notre attitude envers Dieu. Mais ça, c'est la grande exception aux autorités. C'est si on vous demande directement, ou ça vous affecte directement de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Par exemple, le gouvernement vous dit « Vous n'aurez qu'un enfant, l'autre, vous le ferez avorter. » Là, vous avez... Mais vous devez être prêt à assumer les conséquences de cette désobéissance. Voilà, les impôts arrivent. Bon courage à tous. Soyons des bons chrétiens, des bons citoyens et prions pour ces autorités. Comme il a été rappelé dans 1 Timothée 2, 1 et 2. Amen. Voilà, on va se lever. Seigneur, merci pour ta parole, elle est si nette, bien souvent. On a tendance à vouloir la compliquer, mais merci pour ces principes clairs. Aide-nous à ne pas manquer de foi et à obéir aux autorités, Seigneur, tant qu'elles ne nous demandent pas de compromettre notre foi directement. Merci Seigneur pour les autorités que tu as placées dans notre entourage, dans notre environnement, pour les autorités locales, les autorités nationales. Seigneur, on prie que tu diriges ces serviteurs de Dieu qui ne savent pas qu'ils te servent en étant dans ces positions. Souvent ils pensent être motivés par l'appât de la puissance, sinon par l'appât du gain. Mais Seigneur, que ce soit le service public et toi qui les attire, Seigneur, dans ces positions. Fais que beaucoup de ces autorités soient à toi, Seigneur. Je te remercie pour cet adjoint, ce premier adjoint au maire de Nice, qui est un chrétien convaincu, engagé. Merci de mettre dans ces positions, Seigneur, des personnes qui savent pourquoi elles sont là, qu'elles sont vraiment en fait tes serviteurs. Aide-nous à être irréprochables dans tous les domaines, Seigneur. Et on sait qu'en ce qui concerne l'argent, il est facile de craindre, de manquer et de penser qu'en arrondissant un peu les angles, Seigneur, on fait quelque chose qui est bien pour notre famille, pour nous-mêmes, pour l'Église ou quoi que ce soit, Seigneur. Mais aide-nous à vraiment agir par conscience et pas par peur du gendarme, Seigneur. Merci pour la société dans laquelle tu nous permets de vivre. Merci pour ce qui se passe encore en France, Seigneur, où nous avons la liberté de nous réunir librement, la liberté d'annoncer ta parole, de parler aux gens dans la rue. Aide-nous à vraiment saisir ces opportunités pour faire connaître la vérité, Seigneur, et ton amour et la croix, Seigneur, le sacrifice de Jésus à la croix. Seigneur, vraiment, aide chacun de nous, et nous avons tous des domaines où nous avons plus ou moins de mal à respecter la loi, Seigneur, à contester la loi qui va nous faire passer de 90 à 80 et nous faire perdre tant de temps. Je plaisante bien sûr, Seigneur, mais tu le sais, nos cœurs sont rebelles. Aide-nous à nous soumettre à toi et donc aux autorités que tu as instituées. Sois béni, Seigneur, pour ta parole. Aide-nous à être ces citoyens, ces bons chrétiens qui sont des bons citoyens. Merci pour le témoignage au cours des siècles, Seigneur, de ton peuple qui a préféré souffrir aux mains des autorités plutôt que de te renier, mais qui a toujours aussi respecté les autorités lorsqu'elles étaient licites et non pas en désaccord avec la loi de Dieu. Nous prions ces choses par le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.